Nous sommes mercredi 24 avril 2024, il est 21 h et c'est la bagarre et vous écoutez le Dojo Bar. Bonsoir à tous, bonsoir Antix.
Bonsoir.
Bonsoir Renard des Toilettes.
Bonsoir.
Il a fait un effort pour parler distinctement, quoi, quel enfer. Bonsoir Jean, qui va nous quitter prématurément pour des raisons de le capitalisme a échoué.
Oui, bonsoir.
Bonsoir Mecton.
Et bonsoir.
Et bonsoir Zergy, qui n'a peut-être plus de micro. C'est possible. Voilà. Ouais, Zergy est...
Plus de micro.
Il est sans micro fixe depuis quelques
mais Zergy, c'est particulier parce que tu vois, c'est une Arlésienne, mais il est toujours là. C'est assez étrange.
On va partir du principe que c'est pas bien grave. Alors, ce soir, nous allons parler. On va faire la bagarre. Il va y avoir du pas gros point. Il va y avoir du quart de cercle. Il va y avoir de la fatalité. On va faire. Alors, c'est pas vraiment une spéciale Street Fighter 2. C'est plus revenir aux origines du jeu de bagarre. Parce que c'est rigolo.
Parce que c'est rigolo la bagarre.
Parce que la bagarre c'est rigolo. Et c'est une émission qu'on appelait Retro Fighter en se disant voilà, on va vraiment essayer de revenir à cette période entre 90 et 92 et 93. Vraiment la genèse du truc, oui j'aime me battre. Effectivement.
Tout à fait.
On la mettra en miniature du podcast, je pense que ça va drôlement bien se passer.
Tu pourras la mettre en gif quand tu annonceras le podcast sur Twitter.
C'est ça, j'aime me battre. D'abord, on va pas faire un tour de table de l'actualité parce que l'actualité se résume à Infogrames et donc c'est non.
Alors il y a eu l'Indies.
C'est non aussi.
Il y a eu aussi la découverte de Code Konami dans un Castlevania lequel déjà je sais plus.
Legacy of Darkness sur N64 et on verra ça vendredi.
On ne parle pas de Konami.
C'est...
De plus.
On ne parle pas des codes amis, bah comment on va faire?
Et si tu veux faire du Castlevania Legacy of Darkness vendredi soir, je te le déconseille fortement.
C'est très bien Legacy of Darkness.
C'est non, moi j'ai été un peu plus loin que tout le monde et c'est chiant.
Bref. Donc la première partie sera consacrée à un petit décrochage sur un petit jeu qui est passé un petit peu en dessous de nos radars et qui s'appelle Princess Peach Showtime. Parce que c'est le deuxième jeu qui met en scène Princess Peach, si je ne dis pas de bêtises, le premier étant Super Princess Peach sur DS.
C'est bien cool aussi celui-là.
C'est pas le troisième plutôt?
Le troisième, mais quel serait le second alors?
Bah j'en sais rien, c'est ça le problème.
Ah bah oui, mais alors quand on dit n'importe quoi aussi... Hein.
Un Tomb Raider peut-être. Oh t'imagines
oh
le crossover.
Ah non, pitié non. Comment elle va faire le mouvement, tu sais, où elle met ses jambes par-dessus sa tête avec sa jupe, là, ça va jamais marcher.
Bah, comme ça. Voilà, c'est de la radio, ça marche pas.
Ça marche pas quand tu nous le montres à la radio, ouais, c'est un peu compliqué. Bref, donc Princess Peach Showtime, qui est un jeu, qui était un des jeux Nintendo du début d'année, qui est un petit jeu, c'est pas un gros jeu, hein.
Oui.
Être clair, c'est quand même... Qui est fait par le studio Feelgood, à qui on devait le dernier Yoshi,
Crafty Worm, d'ailleurs.
Les deux derniers. Est-ce qu'il n'avait pas fait aussi le Kirby qui était sur Wii U?
Exactement, et on sent qu'on est un peu dans les mêmes lignes directes. Non, pas le Kirby Wii U, mais Kirby Epic Yarns.
Ah, donc le Kirby d'avant qui était sur Wii et qui a fini par être sur 3DS.
Alors peut-être qu'ils ont fait celui sur Wii U, mais j'en suis pas sûr.
Bon, bah du coup, on a la réponse à comment faire un Kirby pour filles. Ok, il est déjà rose.
Non, on peint pas. Alors on ne peint pas Kirby en rose. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est qu'effectivement, on est quand même... Alors, les mauvaises langues avaient dit c'est un Kirby game. C'est un Kirby avec Peach.
Alors,
est-ce que c'est un Kirby avec Peach?
Alors, est-ce qu'un Kirby est forcément un jeu de plateforme? Ça peut se discuter. Ouais, je vois pourquoi on dit ça. C'est vrai que le jeu est simple. C'est du jeu snack où tu te prends pas la tête et où t'as le sourire tout le long du niveau, des niveaux très courts et ça se joue sans mal.
Et avec des phases de gameplay variées.
Ah, ça, oui.
Ce que n'a pas forcément Kirby qui reste un peu sur son gameplay à lui.
Mis à part des fois où tu l'envoies dans un canon. C'est juste comme ça.
Oui, voilà.
voilà,
alors, mais, Monsieur Mortal, hein, parce qu'on dit Jean, Jean c'est un salopard.
C'est un sale con.
Jean, il vote extrême droite. Jean, c'est un gros connard et il joue à des jeux de merde.
C'est ça. Jean, c'est
Jean
un,
il
c'est
a
un
la
mauvais
du capital.
C'est un mauvais voisin. C'est un.
Jean,
un...
il s'enlaille, etc.
Voilà, c'est exactement.
Il y a Princess Toadstool Castle Run qui est le premier jeu avec Peach et qui est une espèce de jeu de merde sur une montre apparemment de ce que je comprends.
Oui, alors va te faire foutre.
Voilà.
Ce qui va se passer c'est que tu vas bien aller te faire foutre. Voilà. Faut quand même arrêter de nous prendre pour des buzards. Voilà. Donc si nous pouvions revenir sur Princess Peach Showtime,
après,
donc
effectivement les premières consoles Nintendo, c'était des jeux électroniques, pas des consoles de jeux.
Ça y est, ils vont arguer sur le fait que stop.
Ah, je parle même pas des Game & Watch. Je parle des TV Color.
Ah oui, des Color TV, non mais d'accord. Bon.
Peach Pichounette.
Donc une petite dizaine de transformations en gros, parce que t'as Peach pâtissière, Peach espion, Peach épée, Peach mousquetaire, pardon.
Peach spatial.
Peach dans ta poche. Ouais, ok.
Je sais que là,
Peach non. Sous l'eau.
C'est non, putain.
Peach à l'envers, bref.
Non, mais c'est... Ah non, Peach à l'envers, c'est un petit peu dégoûtant. Non, pas comme ça. Notre line date.
Peach à la page. Peach à la Peach.
Donc ouais, une dizaine de transformations pour une dizaine de gameplay différents.
Qu'on peut pas choisir dans les niveaux, si je me rappelle bien, c'est-à-dire que c'est prédéterministe. C'est-à-dire que tu arrives, on te file la transformation, tu fais le bout de niveau qui a cette transformation, puis éventuellement on t'en file une autre, mais généralement t'as une transformation par niveau.
Oui, alors je t'avoue que je l'ai pas encore terminé, mais j'ai pas vu de niveau où tu changes de pouvoir en plein milieu d'un truc.
Alors, j'ai cru comprendre qu'il y en avait vers la fin. C'est ma fille qui m'a dit, parce que je l'ai pas fini non plus, je suis arrivé à peu près à la moitié.
Ok. Et ouais, alors, globalement, pour une transformation, de ce que j'ai vu, tu as trois niveaux dispo liés à cette transformation. Le premier, c'est plus ou moins le tuto. Le deuxième, c'est un truc un peu plus élaboré. Et le troisième, c'est le craquage.
Ouais, c'est là où ça devient un peu le grand n'importe quoi, où il faut commencer à tout mélanger, tous les pouvoirs, tous les machins, tous les trucs qu'on t'a montré au fur et à mesure.
Les changements de costume pendant le théâtre, hein. C'est bien chiant.
Oui, c'est un peu ça.
C'est vrai qu'il y a un gros thème théâtral à travers du jeu, puisque tu te retrouves en fait à libérer les coulisses d'un théâtre, et puis tout se passe plus ou moins sur une scène de théâtre. Ça ressemble un petit peu à Paper Mario, la porte millénaire, de ce point de vue-là, où tout se déroule sur une scène de théâtre. Là, t'as vraiment... t'es systématiquement sur une scène en face, il y a les rideaux au fond, il y a un côté jardin, côté balcon, je sais plus comment ça s'appelle, bref. Côté jardin, côté cour.
Et oui, tout l'habillage est très sympa, t'as des petits passages secrets qui vont t'emmener derrière le rideau, c'est rigolo. Un truc qui m'a beaucoup plu visuellement, c'est toute la gestion de l'éclairage.
Oui, ça c'est plutôt bien fait, qui t'indique à peu près où tu dois aller, qui t'indique aussi, il y a un petit événement dans le décor, il y a les éclairages dessus, puis après quand t'as l'espèce de saloperie qui t'accompagne, qui dit « Ah bah tiens, faudrait peut-être aller là », elle est éclairée, Peach est éclairée, etc. C'est marrant.
Il y a une poursuite et tout, ouais, c'est chouette.
Le régisseur a fait des heures sup.
Ouais, exactement.
C'est un peu ça. Du coup, qu'est-ce qu'on peut en dire de plus de ce jeu? C'est un two-button game, hein, c'est vraiment, t'as un saut, une action, et c'est à peu près tout. Très simple. Le vrai défi vient d'essayer de le finir à 100%, comme pour un Kirby.
Exactement, pour un Kirby, ouais.
La comparaison tient toujours. On arrive au bout en 6-7 heures, je dirais.
Oui, après, si sans les petits niveaux bonus, les espèces de boss qui sont liés à un pouvoir, là, tu peux rajouter 2 heures. Et si tu veux le finir à 100%, je pense que tu rajoutes encore 2 heures.
Voilà, donc un petit jeu sympathique mais pas extraordinaire, made in Nintendo, on va dire pour bien démarrer l'année, pour une petite phase de détente entre deux parties de Helldiver, on est bien.
mais peut-être choper-le en promo, parce que je pense qu'il vaut pas ses 60 balles.
Ah, je suis à combien? Non, ouais, 60 balles, je t'avoue que non. Voilà, à une quarantaine d'euros, ça aurait été parfait. Après, voilà, si vous le chopez à moins cher, c'est un bon petit jeu détente, comme tu disais.
C'est ça. Faut pas en attendre beaucoup, mais voilà, ça occupe bien entre deux parties de trucs un peu sérieux, deux parties de bagarre, par exemple, tu vois.
Ouais. Je fais juste un tout petit point technique. Il m'a semblé que la démo ramait du cul.
C'est le cas.
Pas le cas dans le jeu complet.
Ah bah ça fait plaisir.
Je me permets de confirmer qu'effectivement, alors techniquement, le jeu, il est, on disait, il y a plein de très bonnes idées de mise en scène et autres, et c'est très joli. C'est très 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 joli. Mmh. C'est vraiment là-dessus, l'aspect visuel est vraiment léché. On est dans du jeu quali. Alors j'ai un peu envie de dire comme d'habitude avec Feel Good, qui a plutôt eu tendance à avoir de bons résultats, à essayer vraiment énormément de travailler, par exemple les matériaux. Ça fait partie de leur petite marque de fabrique. Je sais pas si le Kirby pâte à modeler qui était sur Wii U c'était eux, mais si c'était eux, on a déjà une petite patte Kirby's Epic Yarn, t'as tout le côté laine et tout, que t'as presque l'impression de pouvoir toucher. Crafted World, il y avait tout ce qui était carton, plastique, scotch, enfin voilà. Ils ont vraiment une très très bonne patte là-dessus, et ça se sent encore, hein. Il y a de très belles textures, il y a de très beaux décors. On est vraiment dans un truc plutôt quali de ce point de vue-là. Voilà. Et bien écoutez, ça m'a fait très plaisir de parler de ce petit Princess Peach Showtime qu'on avait malheureusement pas... Enfin, c'est pas un très gros jeu, vous voyez, en 10 minutes on a fait le tour. Hein. Donc voilà, on se l'est collé dans un petit décrochage. C'était parfait. On va faire une première petite pause musicale. Nous allons nous écouter du coup un petit morceau de la bande originale de ce Princess Peach Showtime qui est
Tout à fait chouette.
Tout à fait délicieuse. Elle est vraiment à l'image du jeu. Hein. C'est rose, c'est sucré, c'est tout à fait agréable à écouter. C'est composé par Soshiro Okai, Yuki Minami et Taichi Tada. Le morceau s'appelle Welcome to the Sparkle Theater, c'est-à-dire Bienvenue au théâtre étincelle, qui est donc... comment dire, en fait, c'est pas tout à fait le thème principal du jeu, c'est le thème quand tu es dans le grand hub central, en gros. Voilà, ça dure un tout petit peu plus de 2 minutes 30, et on se retrouve tout de suite après.
Bullshit.
Et nous voilà de retour. Et nous allons donc entamer ce petit Retro Fighter. Alors mon titre est totalement décalé sur l'écran, mais c'est pas grave, on va faire avec.
Ah oui, effectivement, il décale un peu sur le côté.
Voilà, non mais c'est pas grave, voilà, on va le remettre là.
Il n'est pas resté bloqué dans le coin.
Tout va bien. Il n'est pas resté bloqué dans le coin, et c'est ça le plus important dans un jeu de bagarre, c'est de bien maîtriser l'espace. Voilà, on va pas du tout parler de ça.
De mettre le mec dans le coin et le tabasser jusqu'à ce qu'il meure. C'est toujours vrai.
Je connais cette technique, c'est pas les CRS qui font ça aussi. Voilà, hop là.
Voilà, voilà.
C'est gratuit, c'est pour moi.
Les CRS pratiquent aussi la technique de la tortue.
Oh.
On s'en regarde, Gaël.
Bref, on va parler de l'origine du jeu de bagarre, en fait, de là où tout a commencé. Alors c'est pas le premier jeu de bagarre, hein, on pourrait parler de... Alors Karate Championship, si je dis pas de bêtises, qui était le premier jeu de versus fighting, au sens il y avait deux mecs l'un en face de l'autre qui se tapaient dessus.
Ouais, mais t'avais deux mecs identiques, quoi, c'est comme si tu jouais aux échecs. T'avais le noir et le blanc.
C'est ça, et en fait c'était plus un jeu de, effectivement, celui qui tatane le premier, qui se protège au bon moment, donc c'était, on n'avait pas encore, on va dire, les bases du jeu de bagarre. Il y a Street Fighter 1, dont pareil, enfin, qui n'a pas laissé un souvenir impérissable.
86, qu'on a un peu tous oublié, enfin, y compris Capcom. Franchement, je l'ai testé sur Street Fighter 6. Alors, il y avait déjà le Hadoken, il y avait déjà le Shoryuken, il y avait déjà le Tatsumaki, donc les trois coups spéciaux de Ryu habituels, mais ils sont tellement durs à sortir.
En fait, le seul truc intéressant sur Street Fighter 1, c'est que finalement, il y avait la bande d'arcade d'origine avait des boutons à pression, donc des très gros boutons à pression qu'il fallait frapper très fort pour faire des coups de poing forts ou des coups de poing faibles. Tu tapais un tout petit peu, ça faisait un coup de poing faible. Tu tapais fort, ça faisait un coup de poing fort.
Du coup, la strat, c'était de ramener une batte de baseball.
Oui, alors ça, tu peux faire ça. Ouais.
Mais d'ailleurs, c'est à cause de ces boutons que Capcom a fini par sortir sa fameuse borne à 6 boutons. Parce que ça a explosé tellement vite les boutons de la borne d'arcade que au bout d'un moment, les gens ils se sont plaints et Capcom ils ont fait le truc qu'on connaît maintenant avec un bouton pour chaque niveau de coup.
C'est ça, point faible, point moyen, point fort, pied faible, pied moyen, pied fort. Le système qui s'appelle d'ailleurs, de l'aveu même de Capcom, le Kick Harness. Alors est-ce que vous savez pourquoi ça s'appelle comme ça ?
Pas du tout.
Du tout.
Eh bien, en fait, sur le standard JAMA au Japon, donc le JAMA ça veut dire Japan Amusement Machine, je sais plus quoi, Association. Donc c'est en fait le standard qui sert à brancher les bornes d'arcade. Hein. Faut savoir, une borne d'arcade c'est juste un meuble, il y a un écran, il y a un panel. Et on a simplement un gros connecteur qui s'appelle un peigne JAMA qu'on branche sur une PCB. Et c'est ce connecteur qui amène les entrées, donc le stick, les boutons, et qui fait sortir l'image vers l'écran. Voilà. Et en fait, il se trouve que dans le standard JAMA, qui date de genre 78, hein, donc le truc date un peu, il n'y avait que finalement un stick à 4 directions et 3 boutons. Donc pour faire les 3 boutons supplémentaires, Capcom a dû fournir ce qu'on appelle un kick harness, un harnais de pied. Donc en fait, les boutons de pied sont connectés avec trois câbles différents qui arrivent sur la PCB directement.
Ah, mais c'est lié au fait que c'est les boutons de pied, du coup.
C'est okay. Ça. Ah, parce drôle. Qu'en fait, sinon, ils avaient que les boutons de poing. Ils avaient que 3 boutons.
Comme la manette de Mega Drive, on en reparlera.
On en reparlera.
Ça, c'est rigolo.
On va en reparler. Voilà, donc...
Et bah, autre point important de Street Fighter 1, on est sur un jeu solo, hein. Le but, c'est on joue Ryu, on doit casser la gueule à tout le monde jusqu'à battre Sagat. Et le seul moment où tu peux jouer Ken, c'est en mode multijoueur, où du coup, Ken est un Ecofighter. Il a exactement les mêmes coups que Ryu.
Et c'est quelque chose qu'on retrouvera. Mais du coup, on va légèrement éluder ça. On va faire un petit bond en avant de 86 à 89.
89 pour Final Fight, qui est... Alors, petit jeu. Quel est le point commun entre Final Fight et Devil May Cry ?
C'est le même producteur.
Rouge.
Alors, ça aurait pu marcher. À la base, avant d'être leur propre série, c'était des suites de séries Capcom. Donc, dans le cas de Devil May Cry, c'était un Resident Evil. Et dans le cas de Final Fight, bah, ça devait être un Street Fighter. C'est pour ça que je le mentionne.
Ah oui, parce que c'est les fameuses premières affiches de Final Fight où on voyait effectivement deux mecs et il y en a un qui ressemblait étrangement à Ryu ou à Ken ou je sais pas quoi, mais donc ça devait effectivement être la suite.
Il y a peut-être un peu de ça. Bon, l'autre raison aussi
pour... Tu pars de Resident Evil pour arriver à Devil May Cry.
Alors c'est une... Il faut demander à Shinji Mikami.
C'est ça. Qui involve notamment Kamiya.
C'est pas drôle votre truc, on va faire autrement. Voilà. Okay.
C'est ça. Trop d'action. Allez hop, on va faire un autre jeu.
Mais du coup, Final Fight.
Final qui... Fight, donc Street Fighter 89, avant d'être nommé Final Fight et de sortir en arcade, où il y a des gens, en gros, globalement, une partie de l'équipe de Final Fight bossera sur le jeu dont on va parler juste après. Et surtout, Final Fight qui, à terme, sera, les personnages seront inclus dans les futurs, enfin, d'autres jeux Street Fighter. Donc il y a un petit lien.
C'est lesquels ? Je suis curieux.
Cody, Guy. Pour les deux plus connus qui sont dans le 4 et dans Alpha, et t'as des méchants type je crois Sodom le samouraï qui est aussi jouable dans Alpha.
Ok.
Et plus d'autres méchants. Enfin globalement c'est beaucoup de Poison, qui est un personnage récurrent de Street Fighter maintenant.
Ok. Putain, on apprend des trucs.
La fille araignée qui a un focus sur les pieds là.
Non ça c'est aucun rapport. C'est un personnage inédit Street Fighter 4 jury.
D'accord. Moi je l'ai perdu.
Donc effectivement, Final Fight qui reprend finalement un peu le code du beat'em all.
Je crois que c'est un peu le premier gros beat'em all.
Double Dragon.
Mais c'est vrai.
Double Dragon.
Pas pour moi.
Non mais ça reprend finalement un format qui marche bien en arcade à cette époque-là. Hein. Tu peux jouer deux personnages, tu tapes sur des punks, ça marche. Donc finalement, Capcom fait des trucs qui marchent en ce moment. Et c'est vrai que le beat'em all c'est un genre qui est très 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 populaire. À la fin des années 80.
La tétrachée de Beat'em All sur Super Nintendo Mega Drive, si on a encore besoin d'une preuve.
Qui va peut-être culminer effectivement avec un Street of Rage. Mais bon, revenons donc.
Juste une question.
Oui.
Le principe du jeu de combat, justement, ça vient pas du délire que Double Dragon a de faire s'affronter les deux persos jouables à la fin.
Eh ben, j'en sais rien, c'est possible.
Je serais pas surpris, effectivement. J'y ai repensé justement quand t'as parlé de Double Dragon Mortal, à cette séquence-là.
Parce que c'est l'idée qui me porte dans la tête depuis un moment, mais j'hésite à l'amener parce que je sais pas si c'est juste ou quoi.
Sincèrement, je ne sais pas. Est-ce que ça a servi d'inspiration ou les mecs se sont rendus compte qu'en fait c'était peut-être beaucoup plus marrant que le joueur 1 fight le joueur 2? Peut-être. Maintenant, encore une fois, des jeux de versus fighting, il en a existé avant, et en arcade, et sur Commodore 64, et sur Atari ST. Et, voilà, c'est pas, Street Fighter 2 n'est pas le premier jeu de combat, c'est celui qui a tellement codifié le genre que finalement, il est devenu une espèce de maître étalon et qui a eu un succès absolument phénoménal. Mais on va en reparler, je repasse la main à Antix.
Bah justement, en fait, l'étape d'après pour Capcom, donc c'est de sortir Street Fighter 2 en 91 en arcade. Puis sur Super Nintendo, l'année d'après, avec le succès qu'on lui connaît, hein, ça a été un très très gros moteur de vente, Street Fighter 2.
C'est le cinquième jeu le plus vendu de la Super NES, ce qui est quand même un putain d'exploit, parce qu'à côté, t'as des Mario World et tout. Il a eu l'honneur d'être dans un pack avec la console, ce qui n'était pas donné à tous les jeux non plus. Il y a seulement une dizaine de jeux qui ont été vendus en pack avec la console. Et je rappelle qu'à l'époque, il était vendu non pas 470, 450 francs comme c'est le cas d'un jeu Nintendo, il était vendu 590 francs. J'ai pas fait le calcul avec l'inflation, mais on devait pas être loin des 100 balles le jeu. Hein. Donc Capcom pouvait se permettre de le vendre 100 balles le jeu, les gens l'achetaient.
Le jeu s'est vendu à quasiment 3 millions d'exemplaires, je crois que c'est encore le record de la série Street Fighter à l'heure actuelle, malgré le succès du 4.
Ce serait pas très étonnant.
Après, il y a combien de... Il y a une vingtaine de versions de Street Fighter.
Non, je parle bien du Street Fighter 2. Oui, parce qu'il va falloir qu'on parle des multiples versions. Et
alors,
tout
il
n'y
mais... en a pas tant que ça, on se moque beaucoup, mais il n'y en a pas tant que ça.
Il y en a trois juste sur Super NES. Hein,
on en reparlera après. Mais juste pour...
Quoi, sur Super NES, en plus.
Mais oui.
Bref.
Donc, continuons.
Continuons. Donc, ce qui est important avec Street Fighter 2, donc, c'est que ça va codifier tout un genre qui est le versus fighting, tel qu'on le connaît actuellement avec ses multiples suites, les King of Fighters, les Guilty Gear, et aussi dans une moindre mesure Mortal Kombat. Et qu'est-ce que ça va faire? Donc, on retrouve un mode arcade classique où il faut aller tabasser des gens à travers le monde avec son personnage. En plus, on a 4 boss qui ne sont pas jouables dans la version d'origine, donc alors, comment il faut que j'arrive à me souvenir des noms.
Oui, c'est le bordel. Ouais,
on parle de la localisation après.
Balrog, Vega,
Bison et Sagat.
Ouais, c'est ça.
Qui sont les 4 boss qui ne sont pas jouables dans la première version. Donc, ça, faut les battre. Et du coup, on a aussi un mode versus. Et ce qui est intéressant par rapport aux exemples qu'on a cités, et notamment c'est pour ça que j'ai rappelé le mode versus du premier Street Fighter. Donc, dans le premier Street Fighter, on jouait Ryu contre Ryu, mais en blond, avec un kimono rouge, donc qui était Ken, techniquement. Et qu'ils jouent exactement pareil. Donc Ryu et Ken sont à nouveau jouables. Et on a 6 nouveaux personnages qui sont vraiment très très distincts des deux autres. Donc Ryu et Ken restent assez semblables encore. Ils vont se démarquer petit à petit. Et on aura donc les 8 personnages classiques de Street Fighter qui seront jouables. Donc Guile, qui est un personnage extrêmement défensif, un américain avec son drapeau tatoué sur son épaule qui fait 3 fois la taille de ta tête. On a Blanca, une espèce de bête sauvage du Brésil qui fait l'électricité. Edmond Honda, qui est le sumo local. Chun-Li, qui est la seule gonzesse du casting, et qui tabasse à coups de pied. C'est comme ça que ça fonctionne avec elle. On a ensuite Zangief, qui est notre catcheur de l'URSS. Et alors, c'est très drôle, d'ailleurs, en ce qui concerne Zangief, c'est que dès que tu tombes sur un média américain, il est considéré comme méchant, alors que Zangief, c'est un putain de gentil.
Genre dans Wreck-It Ralph. Attendez, quoi?
Dans le film Ralph là, de Disney, où il y a une réunion des méchants, oui. Il y a Zangief parmi les méchants. Les Zangief, ouais. C'est un gentil dans Street Fighter.
Attends, quoi?
C'était gentil, Zangief, même s'il est russe.
Non, c'est un soviétique, il est forcément méchant. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, là? Oh.
Et bref, pour cette petite parenthèse, parce que ça me fait toujours marrer, et le dernier, c'est Dalzim, qui aura fait rager énormément de personnes, parce que monsieur peut te tabasser avec ses membres élastiques depuis au bout de l'écran. C'est monsieur fantastique, globalement. Ou Luffy, pour ceux qui sont plus dans les mangas.
C'est compensé par le fait que c'est aussi le personnage le plus lent. Donc c'est la plus grande portée, mais c'est le plus lent.
C'est ça. Mais par contre, va falloir réussir à le chercher. Bref, donc c'est des personnages qui sont vraiment très très distants. Donc on va retrouver évidemment Ryu avec ses coups traditionnels et l'introduction de nouveaux coups. Donc jusqu'à présent, on avait. Alors c'est aussi là où les. Ce qu'on appelle les motion inputs. Je n'ai pas forcément la traduction française. Donc en gros, la façon de faire les coups spéciaux dans les jeux de baston, donc les quarts de cercle, le mouvement du Soryuken qui est absolument indescriptible. Et les coups à charge vont vraiment prendre leur importance. D'ailleurs, petite anecdote, toujours sur Zangief, encore une fois, les coups spéciaux n'étaient pas indiqués sur les bornes d'arcade à l'époque. Maintenant, t'as des petits papiers.
Ouais, c'est un grand classique, ça. On verra ça après pour Mortal Kombat.
Mais exactement.
Ça fait partie des petites astuces pour te faire remettre une pièce dans la machine.
C'est ça. Et du coup, pendant longtemps, certaines personnes ont pensé que la shop de Zangief, le pile driver, il se fait en faisant un tour complet du stick, donc ce qu'on appelle la 360, était réservé à l'ordi. Quand tu joues en mode arcade, parce que personne n'arrivait à le refaire avec les cartes de cercle habituelles. Et en fait, il s'est vraiment avéré que c'était comme c'était un 360, un tour complet de stick, personne n'a pensé à le faire. Et du coup, pendant longtemps, on pensait que c'était une version, quelque chose qui était uniquement disponible pour l'ordi. En plus, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire dans Street Fighter 2. Parce que
Version arcade, oui, il y a un petit timing à choper. Hein.
Le jeu était assez exigeant sur la façon dont tu rentrais tes commandes, ce qui était beaucoup moins le cas maintenant. Ce qui est beaucoup moins le cas dans les jeux actuels.
Après, quand tu joues sur Super NES, tu bourres sur le D-pad en faisant des tout-tours, et puis ça finit par passer. Mais c'est vrai que je ne sais pas à quel point cette version-là est fidèle à l'arcade. Elle est fidèle à l'arcade au sens où c'est quand même une version... Enfin, pour une version qui est sortie un an après l'arcade, faut essayer de se rendre compte de l'époque, en 91, les bornes d'arcade sont quand même des bestioles vachement plus puissantes que ce qu'on avait comme console de salon.
Oui, faut se dire que c'était des machines dédiées, en fait. Tu as...
C'est ça, c'est des
t'as
monstres.
T'as une carte pour ton jeu, donc en fait, tu sais ce qu'il y a dedans.
C'est ça,
et donc... t'as plus de place pour mettre plus de trucs, forcément.
Ouais, t'as plus de place pour mettre plus de trucs, et surtout t'as un matériel dédié. Donc voilà, porter ça sur Super NES, franchement c'est chaud, quoi.
Et apparemment, le portage Street Fighter 2 est reconnu comme un très très bon portage, à défaut d'être qu'on appelait à l'époque Arcade Perfect, c'est-à-dire identique à l'arcade. Mais pour un portage... Alors comme on n'était pas encore sur des niveaux de compétitif ultra sérieux comme maintenant... En fait, c'est un portage qui était très très bien et qui, à mon avis, a fait marrer beaucoup de monde sur ces consoles. Et du coup, c'est un jeu qui marche bien. Et Capcom se dit, il y a moyen d'exploiter.
C'est un petit succès d'estime.
Petit succès d'estime. Voilà,
3 millions d'exemplaires sur Super Nintendo, une sortie sur Mega Drive juste derrière.
Alors,
quelque chose comme 30 000 bornes d'arcade installées, je sais pas si c'est... Enfin, 30 000,
alors,
ça
justement...
vous parle peut-être pas, mais c'est monstrueux.
La version qui sort sur Mega Drive n'est pas Street Fighter 2 The World Warrior, qui est la première version, mais la version d'après. Ce qui me permet de faire ma transition. C'est que Street Fighter 2, en plus d'avoir codifié tout le système du jeu de combat, avec les notions de coin, de saut, d'anti-air, de barre de vie, visible à l'écran et compagnie, va aussi codifier une autre chose, c'est comment on va gérer la vie de notre jeu de combat. Et ben, c'est en faisant des multiples versions. Donc des ressorties pour corriger des bugs, et Street Fighter 2 The World Warrior est connu pour avoir pas mal de bugs, notamment à cause de Guile, qui apparemment a quelques bugs qui peuvent carrément friser le jeu.
Ah, on rappelle que c'est avant Internet.
C'est ça.
Oui, donc ça veut dire que quand tu faisais une mise à jour, en fait, alors, pour les jeux, petit récapitulatif, hein, pour les gestionnaires de bornes d'arcade, ce n'était pas un problème, dans le sens où ce qu'ils achetaient, ce n'était pas la PCB du jeu, ce qu'ils achetaient, c'était la licence de la PCB du jeu. Donc quand il y avait un problème et qu'il y avait une mise à jour à faire, basiquement, Capcom leur renvoyait une PCB, ils renvoyaient la PCB d'origine. Voilà. En gros, tu rééchangeais ta carte d'arcade avec Capcom, et Capcom se démerdait pour le mettre à jour. L'arcade, c'est beaucoup bricole-picole. Hein. C'est-à-dire que Capcom récupérait les cartes à base de CPS1, enlevait les ROM, en remettait d'autres, les ressoudait. Enfin, vraiment, c'est très très artisanal tout ça. Il faut quand même bien se rappeler de ça.
Oui, en fait, on est une époque où le jeu vidéo, le côté industriel, on n'y est pas encore. Hein.
Ouais,
c'est pas aussi industriel que maintenant.
Mais je rappelle que les bornes d'arcade sont toujours très artisanales et que vous pouvez vous acheter votre propre borne d'arcade.
Tout à fait, c'est toujours quelque chose qu'on peut faire. Hein. C'est de la soudure, c'est des fils.
Ça reste des trucs que tu vois en techno, quoi.
Oui, c'est ça.
Ça peut même être un peu d'émulation, je sais, parce que, encore une fois, à la gare Saint-Jean, ils avaient acheté deux bornes d'arcade et j'ai beaucoup joué dessus.
C'était de l'émulation, très probablement, parce que c'est vrai que les vraies
cartes...
C'était
de l'émulation, parce qu'il y avait une bonne... Il y avait
3000 jeux en un.
Ouais, ça, je les ai vus, les bornes d'arcade, comme ça.
Ouais. Malheureusement, il y en a une qu'ils ont retirée, parce que l'un des sticks est... disons qu'on a trop joué dessus. Mais il y en a toujours un, et il fonctionne correctement.
Bref, reprenons
le fil
donc,
conducteur.
Donc, plusieurs versions.
Le fil de notre Shoryuken, donc seconde version à sortir, la Champion Edition, qui ne sortira pas sur Super Nintendo, donc sortira en arcade, évidemment. Hein. Toutes les versions de Street Fighter sont sorties en arcade, hein, jusqu'à la Super Street Fighter 2 Turbo. Mais du coup, elle ne sortira pas sur Super Nintendo, mais sur Mega Drive. Donc ça, c'est la version Mega Drive qui a cette petite particularité. Si vous connaissez un peu la manette de Mega Drive, la première, vous vous souvenez du nombre de boutons, il n'y en a que 3.
Bah comme, yep. En fait, comme en arcade, hein, basiquement, Sega n'a fait que reprendre le standard de l'arcade pour le porter à la maison. Je rappelle, l'arcade, 4 directions, 3 boutons, ni plus ni moins.
Et du coup, bah, ça, Sega reste un fabricant d'arcade à l'époque, avant d'être un fabricant de console. Hein. C'est ça qui marche pour eux, surtout.
Et ils sont restés des fabricants d'arcade, d'ailleurs.
Tout à fait.
Ouais. Mais du coup, comment est-ce qu'on fait les pieds, alors, si on a que les boutons pour les points?
Eh bien, on fait une manette spéciale.
Alors non, d'abord, on appuie sur Select.
Oh, quel enfer.
Et après, on sort la manette à 6 boutons.
Alors, c'est pas les seuls hein, qui ont sorti une manette à 6 boutons pour Street Fighter 2, je précise. C'est quand même... je sais pas si vous imaginez, le jeu est un tel succès monumental et en arcade et en espérance de vente sur les consoles de salon que les constructeurs vont jusqu'à modifier leurs accessoires, leurs périphériques. Il y aura aussi une manette 6 boutons pour 3DO, parce que la 3DO n'a que 3 boutons. Quand Street Fighter 2 sortira sur 3DO, il y aura une manette 6 boutons pour aller avec. C'est pareil sur TurboGrafx-16, donc sur PC Engine, où il y aura une manette 6 boutons pour Street Fighter 2. Donc on est vraiment, voilà, Street Fighter 2 amène les manettes 6 boutons chez tout le monde, quoi, en gros.
C'est ça, et même maintenant encore, hein, on peut trouver des manettes 6 boutons. Moi j'en ai une pour la Switch, pour jouer à Street Fighter 6. Parce que, en fait, bah, ça reste un truc qui fonctionne bien pour jouer à Street Fighter. Par contre, ça marche pas pour grand chose d'autre.
Après, c'est moins des manettes et plus des espèces de pads de jeu, en fait.
De stick arcade, oui, il y en a qui en ont. Hein.
Ah, oui, voilà. Bah, ça réussit,
mais de toute manière, à l'époque, ils utilisaient tous à peu près le même style de prise, qui était très pratique pour pouvoir bricoler, non?
Pas forcément d'ailleurs, tu n'as pas forcément de compatibilité. Mais bon, de toute façon, il fallait quand même payer ta manette. Donc en plus de payer ton jeu 590 francs, alors peut-être que ça coûtait moins cher sur Mega Drive, hein, mais voilà, fallait que tu achètes une manette, sinon tu donnais la fameuse manette du petit frère, hein, c'est-à-dire le petit frère, fallait qu'il appuie sur Start pour alterner les poings et les pieds. Ce qui est quand même un peu la misère.
Horrible. C'est et encore, pour faire certaines combinaisons, il fallait peut-être appuyer sur deux touches, comme pour,
non, ça
comme
je
pour
ne crois
Nightmare
pas.
Circus.
Pas trop sur celui-là, à part peut-être pour l'Ariat de Zangief, parce que je crois que c'est la seule qui a par défaut. Mais bref, du coup, Champions Edition, pour revenir un petit peu dessus, on va passer vite, hein, parce que la principale particularité, c'est que du coup, les 4 boss qu'on a cités tout à l'heure, Balrog, Vega, Sagat et Monsieur Bison, sont jouables dans cette version. Et du coup, la petite anecdote à leur sujet, c'est que les noms de Balrog, Vega et Monsieur Bison en Occident ont été interchangés. Pour des raisons, on suppose, de copyright. En version japonaise, c'est le boxeur qui s'appelle M. Bison. M. Bison, ça ressemble un peu à Mac Tyson. Peut-être pour éviter les emmerdes, on change les noms.
C'est pas impossible, et du coup, le boxeur est devenu Balrog.
Donc Balrog, c'est censé être Vega l'espagnol. Et du coup, Vega, c'est le dictateur. Alors du coup, sur la scène internationale, ils ont des surnoms. Moi, je me suis habitué à force. Donc Donc Klo, c'est Vega, donc le ninja espagnol. Bison, c'est dictateur. Et Balrog, c'est le boxeur.
Comme ça, c'est vrai que c'est plus simple, ça permet effectivement d'avoir une espèce de notion internationale.
Ouais, ça rend le truc un peu moins fou, puisque du coup, bah, y a que au Japon qu'ils ont leur nom d'origine, et dans tout le reste du monde, ils ont changé. Non, mais c'est pas les seuls qui vont avoir des noms qui vont changer, mais c'est les plus notables et les plus connus, en fait. C'est les personnages qui sont extrêmement récurrents dans la série. Donc voilà, ça c'était pour Champions Edition, qui fera pas très long feu, hein, parce que... Un an après, en 80... Ah non, même pas un an après. À la fin de l'année 92, donc Champions Edition, c'est mars. Hein. En décembre 92, en arcade, sort Street Fighter 2 Dash Hyper Fighting, qui est la version turbo, en fait. Hein.
Okay. C'est ça, qui introduit le mode turbo, si je ne dis pas de bêtises, c'est-à-dire un mode où les choses vont beaucoup plus vite.
Et qui est, à mon avis, un petit peu un des jeux qui va commencer un peu le même, selon des innombrables versions de Street Fighter, avec des noms encore plus, de plus en plus bizarres.
On rappelle que la toute dernière version, c'est Ultra Street Fighter 2 The Final Challenger.
Voilà.
C'est un sacré putain de nom.
Mais on a un petit king pour les noms à rallonge au dojo, donc on va pas leur en vouloir.
Donc celle-là, c'est surtout le mode turbo, avec des ajustements sur les personnages. C'est l'avant-dernière version qui sortira sur Super Nintendo, et la dernière version qui va sortir sur le CPS-1, donc qui est le système d'arcade de Capcom. Ça aura son petit important juste après. Après, je vais juste parler rapidement des autres versions, enfin de Super Street Fighter 2. Donc il y a deux versions principales qui sont The New Challenger qui sortira sur Super Nintendo, qui ajoute 4 personnages, qui sont T-Hawk, DJ, Feilong et Camille. Et après, t'as Super Street Fighter 2 Turbo, qui est un petit peu la... Ah, tu vois, s'écrit d'elle-même. Hein.
Super Street Fighter 2 Turbo Hyper Cheating The Bare Final V2 Challengers édition Turbo. Voilà, c'est super.
Voilà, mais du coup, celle-là, alors Street Fighter 2 Turbo, et c'est la version un peu considérée comme définitive par les fans, par les gros joueurs de Street Fighter. En gros, c'est la version qui est encore jouée au Japon actuellement. Hein. C'est une version qui est assez exigeante, qui est assez rapide, qui va introduire les supers qui étaient déjà introduits avant dans King of Fighters de mémoire, ou peut-être dans Fatal Fury. On en reparlera après. Et surtout, donc ces deux jeux-là qui sont des jeux qui tombent sur le CPS2, qui était la nouvelle borne d'arcade de Capcom. Et grosso merdo, Super Street Fighter 2, c'est une façon en fait de vendre des CPS2 aux salles d'arcade. En proposant une version améliorée de Street Fighter 2 et aussi revue en termes de musique et de graphisme. C'est vraiment plus joli pour le coup. Il y a une différence assez notable. On reste sur quelque chose de très propre, mais il y a quand même une différence quand on joue aux deux versions. Et grosso modo, quand on pense à Street Fighter 2 maintenant, quand on voit des images de Street Fighter 2, c'est Super Street Fighter 2 Turbo. C'est vraiment la version un peu définitive.
Et c'est la référence, quoi.
C'est ça. Et en fait, c'est une version un peu qui est tellement appréciée en fait que dès que Capcom a voulu faire des nouvelles versions, parce qu'il y en a eu 3 après, c'est pas fini là.
Oh
donc
God.
On a Hyper Street Fighter 2 The Anniversary Edition, qui est une première version.
Parce que c'est l'anniversaire de ces 3 mois, parce que je rappelle, hein, c'est Capcom.
Ça doit être ça. Ça doit être ressorti en 2001 pour les 10 ans du jeu. Puis à Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix.
Parce que pourquoi pas.
Qui était la version pour les consoles. Les consoles HD.
PS3, si je voilà. Dis pas de bêtises, c'est ça.
C'est ça. Dont tout avait été refait par un gros fan de la licence et tous les sprites avaient été refaits par Udon qui fait des comics pour Capcom. Je suis pas extrêmement fan de la DA. Du coup, donc la version dont parlait Renard, Ultra Street Fighter 2 The Final Challenger, qui est la version dispo sur Switch. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces trois jeux, normalement, quand tu fais des itérations de jeux de baston, tu pars de la précédente, tu fais tes modifs, et tu fais la nouvelle version. Et là, en fait, à chaque fois, ils repartent de Street Fighter 2 Turbo pour en faire une nouvelle à chaque fois. Donc ça n'a même pas de sens entre elles, quoi.
Oui, l'arbre généalogique des Street Fighter 2 est relativement compliqué.
Ouais. Alors je recommande, si vous êtes curieux, sur la chaîne une chaîne YouTube qui s'appelle Guile Winquote, qui est un gars qui adore parler jeux de baston, mais jeux de baston un peu inconnu. Et il a deux super vidéos sur Street Fighter 2, donc la première qui s'appelle Super Street Fighter 2 Turbo et est un jeu complètement cassé. Street Fighter 2 Turbo is Broken en anglais. Et la seconde, c'est sur justement ces suites de Street Fighter 2 dont je viens de parler, où t'as des... qui font des choix de modification, après ils reviennent en arrière pour la suivante. Voilà, c'est
mais
simple.
Est-ce que les versions magnifiques de Ken et Ryu sont dans les deux autres versions?
Non, ça, c'est inédit à The Final Challenger.
D'ailleurs, je précise, alors je ne sais pas si c'est du troll ou pas, je précise, l'histoire n'a pas retenu le truc, en tout cas j'ai lu quelque part il y a fort longtemps que Street Fighter 2, la version console, devait être une exclusivité sur Super Nintendo, et comme vous pouvez le constater, c'est Capcom et les exclusivités, donc ça remonte un peu loin.
Ah oui, si vous voulez vous marrer un petit peu, allez regarder sur Wikipédia, sur quelle console sont sortis les Street Fighter 2, vous verrez à peu près toutes les consoles. Hein. Entre les différentes versions, elles sont sorties partout. Hein.
C'est ça, ça a été porté dans...
Voilà, c'est le petit frère de Doom, en fait.
C'est ça, on parlait tout à l'heure de 3DO, de CDI, de choses comme ça, c'est sorti là-dessus, hein, donc sur des consoles très obscures.
Oui, et puis tu trouves des versions de Street Fighter 2 sur des consoles actuelles. Hein.
Tout à fait.
Notamment la Switch qui a...
Ultra Street Fighter 2, du coup.
Sympathique.
Plus la version Anniversary de Street Fighter, où tu as différentes versions de Street Fighter 2 dedans.
C'est ça. C'est-à-dire que quand tu sors une compile de Street Fighter 2, de Street Fighter de manière générale, il est de bon ton d'avoir au moins 3 Street Fighter 2 à l'intérieur, hein, c'est le minimum, sinon elle est refusée par Capcom.
C'est ça. Et du coup, juste pour terminer un petit peu sur le jeu, moi il y a deux sujets que je voulais aborder. Donc le premier, c'était un peu les créateurs. Parce qu'on a des noms, vous allez voir, c'est assez rigolo. Donc le premier, c'est le producteur qui s'appelle Yoshiki Okamoto. Alors, ça vous dira peut-être rien, mais en tant que fan de Nintendo, il est responsable de la création du studio Flagship, Le flagship, normalement, ça devrait vous parler.
Le flagship, ça nous parle, oui.
Parce que c'est Zelda Oracle of Season, Of Age, Minish Cap et Kirby and the Amazing Mirror, entre autres.
Effectivement,
c'est
flagship.
Des collaborations avec Capcom, non?
Tout
au
à fait.
Pour les Oracle.
Bah, c'est un studio Capcom qui va bosser pour Nintendo.
Donc, effectivement, ça nous parle.
L'autre personnage un peu important, qui est le réalisateur du jeu, c'est Akira Nishitani, donc qui a aussi bossé sur Final Fight, et qui va se barrer quelques années plus tard pour fonder Arika, alors pas le studio le plus connu. Leur dernier jeu, c'est X-Fighting, X-Layer, un truc comme ça, alors, les noms chiants. Mais du coup, il se barre de Capcom pour bosser sur Street Fighter, puisqu'il va faire les Street Fighter EX, qui sont les Street Fighter en 3D que tout le monde a oublié.
Oui, malheureusement, ouais. Qui sont pas très très bons non plus. Hein.
Et les deux derniers noms un peu connus, c'est un peu plus les artistes. Donc on a Yoko Shimomura à la musique.
Va en écouter un petit extrait dans quelques minutes.
Exactement. Et le second, c'est Akira Yasuda, alias Akiman, qui est un illustrateur qui va participer au design et surtout qui est connu pour ses illustrations du jeu. D'ailleurs, quand on lui demandera pourquoi il a fait des grosses cuisses à Chun-Li, il répondra parce que j'aime bien les filles avec des grosses cuisses.
Voilà, non mais c'est
un homme de culture.
Un homme comme on les aime.
Mais du coup, c'est assez intéressant. Du coup, c'est intéressant de dire que voilà, il y a un illustrateur sur le design du jeu, parce qu'en fait, les jeux de baston jusqu'à Street Fighter 4, c'est globalement des jeux d'illustrateurs. C'est eux qui vont designer les personnages pour qu'ils soient charismatiques. Ils vont faire les affiches de promotion. Et en fait, t'as vraiment cette culture de l'illustration dans le jeu de baston des années 90. Qui est assez forte et je pense qu'on en doit une partie à ce mec.
Et c'est d'ailleurs pour ça que avec Marvel Super Heroes, on a un aspect très comique et c'est en hommage à Jack Kirby qui était un très grand nom des comics.
Ah bah, pour le coup, Jack Kirby, créateur de beaucoup de figures de Marvel. Hein.
Ah oui, et pas que d'ailleurs.
Et pas que.
Il a fait Darkseid, etc.
Oui, non, il y a du taf.
D'ailleurs, petite anecdote à ce propos, Darkseid est apparu dans la saga du cinquième monde, qui a commencé dans un comic qui s'appelait Le super ami de Superman, Jimmy Olsen.
Oui.
Voilà, c'était une grande saga qui a commencé dans un comic.
Ah oui, dans un truc très 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 secondaire.
Voilà. Même c'était le pire, c'était le truc qui sortait le moins bien à DC. Et c'est justement Jack Kirby qui avait demandé qu'on lui donne le comic le moins bien pour qu'il puisse en faire un grand truc.
Ok.
Intéressant. Voilà. Et juste pour terminer, c'est un jeu qui était tellement populaire, comme on l'a vu, qu'il y a eu un film avec
Jean-Claude Van Damme.
Putain, il en parle. Oh là là.
Bien sûr, j'allais en parler.
Alors attendez, avec Jean-Claude Van Damme, avec Kylie Minogue. Et apparemment, sur le tournage, Jean-Claude Van Damme était quand même beaucoup plus préoccupé par Kylie Minogue que par le tournage. Hein.
Étonnant. Bah,
ce n'est pas une légende.
En plus, Kylie Minogue jouait Camille. Donc Camille, pour ceux qui ne connaissent pas trop Street Fighter, c'est la blonde en maillot de bain.
Et alors, le seul truc, c'est que Camille n'a pas l'air si petite que ça, alors que Kylie Minogue, elle fait vraiment 1m20. Hein, donc c'est...
Bah, alors, Camille, elle n'est pas si grande que ça. Hein.
Ouais, mais elle n'est pas si petite que ça.
Non, mais elle te défonce quand même.
Oui, je sais, c'est le personnage principal. Et du coup, ce qui est rigolo avec ce film, parce que moi, ça me fait marrer, il y a un jeu adapté du film.
Oui,
qui s'appelle
Street Fighter 2, The Movie, The Game.
Il est correct.
Alors, et je me devais de le citer dans cette émission.
Et alors, attention, fun fact, le jeu a été réalisé par des équipes qui étaient spécialisées là-dedans. Donc, on va parler de photosprite après. J'adore ce terme photosprite. Je trouve que c'est tout à fait... C'est un terme parfait pour définir ce que fait Mortal Kombat, c'est-à-dire les personnages digitalisés, comme on disait à l'époque, ça ne veut pas dire grand-chose, par contre le photosprite, c'est ça. Donc les photosprites ont été réalisés sur le tournage de Street Fighter 2, mais l'équipe américaine qui devait faire Street Fighter 2 The Movie The Game, la version arcade, n'avait pas accès au code de la version arcade, donc ils ont dû tout recoder. Sauf que, donc cette version arcade, elle est considérée comme pas terrible, mais du coup... Capcom, qui a pas lâché l'affaire, a repris les assets, donc a été reprendre les photos qui ont été faites sur le tournage 2 ans plus tard pour faire l'adaptation Saturn en utilisant un moteur de Street Fighter 2. Donc la version Saturn de Street Fighter 2 The Movie The Game est un vrai Street Fighter, contrairement à la version arcade.
Incroyable.
C'est absolument incroyable.
La version de Street Fighter 2.
Beaucoup trop. Et dernier point important, c'est aussi un jeu qui a eu pas mal d'adaptations aussi en animé, forcément, un jeu japonais. Notamment un film, Street Fighter 2 The Animated Movie, qui va être assez important en fait pour la suite de la série. Parce que Capcom va tellement l'aimer que énormément des idées du film vont être incorporées dans les autres jeux de la série. Et notamment, c'est ça qui fait que à partir de Street Fighter Alpha, tu vas avoir un design beaucoup plus manga-anime que le style un peu réaliste qu'il y avait dans Street Fighter 2. Alors, je mets un peu avec des
guillemets. Réaliste, hein. Oui, voilà. Faut quand même mettre... Enfin, c'est quand même un style d'illustrateur, mais t'avais plus un style comics à l'américaine, finalement. Tu te retrouves avec un style qui bascule un peu plus vers le manga et l'anime.
Voilà, c'est ça. Bon, après, on pourrait parler de plein d'autres choses. Hein. La quantité incroyable de légendes urbaines au sujet du jeu, que ce soit notamment le maître de Ryu, est-ce qu'il était jouable, qui était jouable mais caché, et Capcom
voilà,
a tellement aimé ça.
Akuma.
Il deviendra bon, ce bon vieux Gouki. Bah, qui, d'ailleurs, le maître de Ryu et Ken sera jouable dans Street Fighter 4 au final. Donc, il y a ce genre de petites choses. On a aussi toute une série de bootlegs, dont un légendaire qui s'appelle la Rainbow Edition.
J'ai vu, t'en avais parlé, j'ai regardé. C'est... Vas-y.
Allez voir, parce que globalement, c'est qu'est-ce qui se passe si on décide de faire, d'oublier l'équilibrage et de mettre n'importe quoi à tous tes personnages. C'est incroyable, et apparemment ça aurait servi d'inspiration à Capcom pour justement Super Street Fighter 2, notamment la création des Super.
On va faire une petite pause musicale, puisque sinon on va y passer la nuit, et qu'on a quand même une deuxième partie d'émission à faire,
c'est ça.
qui va être un petit peu plus courte, hein. On va commencer à parler un petit peu des enfants de ces trucs-là, on va pas y rentrer en détail.
Alors, il y a plus les concurrents, pour le coup, dans un premier temps, et après les enfants.
Plus les concurrents. Bah, on va commencer par les concurrents, et je suis pas sûr, on aura quand même quelques enfants derrière, malgré tout.
Ouais, on va plus les citer, je pense, qu'autre chose.
Je pense aux ici, ouais. Bref, donc on va s'écouter, forcément on pouvait pas passer à côté, hein, le thème de Gail.
Ça va avec tout.
Indispensable, ça va avec tout. Il s'agit là du remix pour les 25 ans de Street Fighter, c'est donc une cover rock du thème de Gail, ça dure 4 minutes et on se retrouve tout de suite après.
Sonic Boom!
Et nous voilà de retour. Et donc on va entamer cette seconde partie sur finalement le j'allais dire les enfants, les successeurs, les copycats, les enfin, voilà, quand Capcom commence à vendre des bornes Street Fighter 2 par paquebot entier, il y a tout un tas de gens qui se disent mais en fait le versus fighting ça doit pas être si compliqué que ça, on doit pouvoir s'y mettre aussi.
Ah bah faut dire que l'époque tout le monde voulait changer de baston. Hein. T'avais des jeux de baston Sailor Moon, Ranma 1/2, Dragon Ball évidemment.
Bah Ranma encore.
Non mais Ranma 1/2 ou Dragon Ball par exemple, ça peut éventuellement se justifier. Il y en a d'autres qui sont plus discutables, on va dire. Mais c'est vrai que c'est aussi un truc un peu facile finalement quand t'as un manga pour garçons, comment ça s'appelle ? C'est
pas
un
shonen.
Un shonen. Quand t'as un shonen où il y a un petit peu de bagarre, bah finalement l'adapter en jeu de combat, c'est plus malin que de l'adapter en jeu de plateforme.
Oui, bah d'ailleurs, actuellement c'est toujours comme ça que ça marche. Hein. Naruto, même les gros succès là, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, les succès récents. C'est du jeu de baston aussi. Hein.
C'est du jeu de baston aussi, alors qu'il fonctionne sur des principes un peu différents, mais c'est du jeu de baston. Bref, on voudrait parler surtout de deux grandes familles qui sont nées qui ont leurs racines dans Street Fighter 2, mais qui sont nées de Street Fighter 2, qui se sont inspirées soit commercialement, soit artistiquement, soit gameplayment de Street Fighter 2. J'ai nommé Antix pour SNK.
Exactement, Team SNK.
Alors SNK c'est Fatal Fury, King of Fighters, Art of Fighting, Samurai Shodown.
C'est ça, plus surtout c'est la Neo Geo, hein, la console, et la borne d'arcade, parce que c'est globalement la même chose. Et eux en fait ce qu'ils vont faire c'est dès 91, ils vont sortir leur jeu de bagarre, qui est Fatal Fury, ou Garou Densetsu en version japonaise, et qui sortira pas si longtemps après Street Fighter. On parle de novembre 91, Street Fighter 2, c'est février 91.
Oui, donc ça a été... Alors, soit ça a été rushé, soit les mecs ont eu la même idée à peu près au même moment.
Alors, je pense que il y a un côté même idée, puisque la personne qui s'est occupée de faire Fatal Fury, en fait, c'est Takahashi Nishiyama, donc je retrouve son nom, qui en fait est le réalisateur de Street Fighter 1, qui s'est barré chez Capcom pour aller chez SNK.
Donc en fait, les grandes idées se rencontrent, peut-être que finalement Street Fighter 2 a eu la primeur, mais que les choses auraient pu être un peu différentes.
Alors pour le coup, Fatal Fury, c'est pas tout à fait un jeu de versus fighting comme on conçoit dans Street Fighter 2. En fait, c'est un jeu solo. Tu choisis parmi tes trois personnages et tu dois aller casser la gueule à tous les bandits de South Town, qui est là où ça se passe. Mais il n'y a pas vraiment de mode versus. Et c'est plutôt à partir des suivants qu'ils vont faire un vrai jeu de combat... À la Street Fighter 2, avec les particularités de la série, notamment qui est que tu peux changer de plan. T'as trois lignes, donc ça c'est assez intéressant.
C'est très inspiré du coup du... On revient sur le beat'em all à l'origine, hein, c'est-à-dire exactement. Que, au fil un perso, tu vas aller casser la gueule à des gens, et les trois lignes, dans un double dragon, puisque c'est le premier à faire ça, le fait de se déplacer verticalement sur l'écran, ça avait une énorme importance, pas être sur la même ligne que l'adversaire, tenter de le brain comme ça,
voilà,
ça
et là,
pouvait avoir de l'intérêt.
Du coup, dans le... Alors moi j'avais testé un peu le 1 et le 3 là, pour préparer l'émission, et dans le 3 ils te disent carrément, mais change de ligne pour éviter les projectiles, hein. C'est vraiment genre penser dans le système de jeu. Et du coup, Fatal Fury, il y aura aussi donc Art of Fighting en parallèle, que je connais pas vraiment pour le coup. Et en fait, ces deux séries, avec d'autres séries de SNK, vont fusionner pour faire The King of Fighter, avec King of Fighter 94, qui est un peu la grosse série baston de SNK, hein, pour le coup.
Oui, puisque en fait, elle est sortie de manière annuelle jusqu'à grosso merdo 2002.
Je crois que c'est quelque chose comme ça, et en fait à partir de 2002 ou 2003 ça va donner des numéros, donc à partir de King of Fighters 11 ça arrête d'être annuel.
Ouais, ça fait quand même en arcade c'est quand même resté très longtemps. En 2002 en arcade ça commence quand même à faire vieux.
C'est un standard de l'arcade, c'est une référence, hein, King of Fighters, même maintenant King of Fighters 15 qui est le dernier sorti, c'est un jeu qui est encore relativement joué et attendu. Et Fatal Fury, c'est une série qui va s'arrêter plutôt vers 99 avec Garou Mark of the Wolf, qui est un très bon jeu, qui est disponible à 3€ sur votre Switch d'ailleurs, si vous êtes tenté. Mais qui va pas vivre aussi longtemps que King of Fighters.
Et Mecton, tu avais un petit truc à dire, excuse-moi, t'as interrompu.
Non, c'est une question. Le tag, c'est eux qui l'ont introduit ou ça existait d'avant?
Alors le tag, ça va être, à mon avis, c'est plutôt dans un jeu Capcom.
Okay.
Que ça va être Capcom versus Street Fighter versus X-Men ou un truc comme ça.
Je crois que c'est Marvel versus Capcom.
C'est pas impossible, parce que c'est sorti assez vite, ça, Marvel. Alors,
je crois me souvenir, parce que j'ai testé Marvel versus Capcom, je crois me souvenir que justement tu choisis trois personnages et que tu essaies.
Oui, mais est-ce que c'est le premier? C'était ça la question, c'est le truc qui a inventé le tag.
Après, c'est pas le genre de tag, parce que King of Fighters, c'est t'as un personnage, il se fait buter, tu passes au suivant. Alors que les versus Capcom, Marvel versus Capcom, c'est tu peux changer quand tu veux pendant le match.
Oui, tout à fait. Donc, il y a peut-être une. Là aussi, c'est toujours pareil, il doit y avoir des parentés d'idées pas forcément toujours très très claires, et des gens qui ont dû se dire, bah tiens, ça serait rigolo qu'on puisse changer en plein match et pas juste quand le mec est mort.
Globalement, de toute façon, le jeu vidéo, je pense encore plus à un genre aussi, qui est aussi défoisonnant pendant cette période que le jeu de baston, ça s'inspire des autres. Hein.
Obligatoirement.
Je parlais de la Super Street Fighter 2, en fait, ça venait de. Je crois que King of Fighters l'a fait en premier, globalement. La barre de oui, super à remplir.
Je serais pas choqué qu'effectivement les uns inspirent les autres, quoi.
Donc c'est toujours un peu comme ça que ça marche. Juste pour terminer un petit peu d'ailleurs pour revenir un peu sur le Nishiyama, le créateur de Fatal Fury. Donc ce gars-là va se barrer de SNK aussi à un moment, va fonder sa société Dimps. Et Dimps, pourquoi ils sont connus?
Pour les slips.
Alors, aussi.
Et voilà, c'est fait, boum.
Pour les Street Fighter 4 et 5. Street Fighter 4 et 5, pardon.
Street Fighter, c'est bon, on l'a. On l'a chopé.
Elle est pas mal.
Street Fighter 2, c'est la version française, tu vois, de Street Fighter. Hein,
c'est ça. Non, mais du coup, voilà, pour dire que le mec, il est resté dans le jeu de bagarre, et surtout, il est retourné à Street Fighter à un moment.
Après, il y a plus de gars en slip que de rues auxquelles ils se battent, donc c'est plus juste.
Que celui qui n'a jamais fantasmé sur le slip bien rempli de Zangief me jette la première pierre.
Ah, ça
dire, clairement.
Bon, écoutez,
slip facteur.
Le slip facteur.
Voilà, on rappelle que c'est dans Street Fighter 2, il n'y a qu'une seule map qui est effectivement une rue, et c'est celle de Chun-Li.
Tout à fait. Tout à fait. Effectivement, le reste ne se passe pas du tout dans la rue, ce qui fait que les combattants de rue ont pas vraiment de... Enfin, c'est bizarre. Mais je crois que c'est dans le Street Fighter 1...
Tu peux compter Bianca, peut-être. Blanca, ouais. Peut-être.
Je crois que c'est dans Street Fighter 1, surtout, que les mecs se battaient, effectivement, dans la rue, dans la gare, dans les hangars. Non, pas tant que ça non plus.
Pas tant que ça. Bah, ça fait varier les décors. En fait, l'idée, c'est surtout, je pense, que c'est tu te bats en extérieur et pas forcément dans des arènes dédiées.
Bref, l'autre...
Juste pour finir sur SNK, oui. Eux, ils vont vraiment embraser hein, le côté jeu de baston, puisqu'ils vont sortir la Neo Geo, qui est leur version console de leur bande d'arcade. Et vraiment, c'est une console, en fait, passée les premières années, qui va être blindée de jeux de baston, donc les KOF annuels, les Fatal Fury, les Samurai Shodown, et sûrement plein d'autres trucs que j'oublie et que tout le monde a oublié depuis.
Oui, je crois qu'avant, la console qui était plus l'arcade dans ton salon, c'était la PC Engine, je me trompe.
Oui et non, c'est un peu plus compliqué que ça. La PC Engine était très capable, mais arcade dans ton salon, personne, je pense, n'en était capable de toute façon avant la Neo Geo.
C'était un peu la console des shoot 'em up, par contre, parce que contrairement à la Super Nintendo, ça ramait moins.
Oui, effectivement, la PC Engine, c'était plus... Mais après, on m'a rappelé il y a peu que le shoot 'em up était un petit peu comme le FPS d'aujourd'hui. Hein. C'était des genres, c'est pareil, des genres très codifiés, mais qui étaient très populaires en réalité.
Ah oui, non, mais...
Des jeux comme Super R-Type se sont extrêmement bien vendus sur Super Nintendo. Le shoot 'em up, c'était une valeur sûre. Hein. Tu savais pas ce que tu voulais faire comme jeu, fallait faire un shoot 'em up, c'était le truc qui était un peu garanti de faire des ventes et que tu retrouvais souvent dans les jeux de l'année. Enfin voilà, c'est devenu après finalement, un peu comme le Versus Fighting d'ailleurs, c'est devenu après plutôt un jeu de niche. Moins populaire, plus réservé à un public d'habitué et d'adapté.
Il y en a quand même qui sont bien fans de tout.
Oui, ah, j'ai pas dit le contraire, hein, mais je dis juste... Effectivement,
après, là, ça tombe plus dans le L-Bullet.
Oui, après, le Bullet L-Shooter, c'est encore un autre...
Le Danmaku, c'est encore un sous-genre, tout le monde n'est pas prêt pour ça. Et du coup, donc en face, de l'autre côté du Pacifique, on a eu une série qui est sortie qui s'appelle Mortal Kombat.
Alors qui a suivi un destin finalement assez similaire à Street Fighter, donc
ouais, ça finit sur un film. Ouais.
Ça finit sur un film, sur deux films. Et le deuxième étant bien au-dessus du premier. Hein,
et une série.
Et plusieurs séries. Avec, enfin bon, bref, les séries, on va pas revenir dessus parce que sinon on va pas y arriver. Oui, Mortal Kombat, qui est une école de design très très différente. L'idée d'Acclaim, c'était de dire.
Midway.
Alors c'est Midway. Alors non, la version console, c'est Acclaim. Les versions arcade, c'est Bally Midway. Et donc effectivement, c'est Midway, mais c'est.
Exact, éditeur Acclaim. Acclaim jusqu'à de 92 à 94.
Voilà, et donc c'est une école de design très très différente, puisque là l'idée c'est, Midway et Acclaim sont quand même connus plutôt pour leurs jeux un peu outranciers, on va quand même se le dire, ça fait partie de la marque de fabrique d'Acclaim, ça fait partie de la marque de fabrique aussi de Midway, et donc c'est un jeu qui va beaucoup jouer sur le côté c'est gore, c'est violent, c'est interdit, c'est transgressif finalement, alors que c'est pas tant transgressif que ça, hein. Ça reste un jeu de bagarre finalement assez standard, il y a des grosses gerbes de sang, enfin chaque personnage perd environ 30 litres de sang par combat, mais c'est tellement exagéré, c'est tellement...
Oh, ils se battent aussi au-dessus de pits de lave ou de poison...
Enfin voilà, c'est ça, mais c'était...
Voilà, ça a quand même causé un gros backlash aux États-Unis parce que évidemment...
Oui. Ah mais forcément, mais le truc étant cette violence de façade... C'est quelque chose d'un peu assumé, c'est une espèce d'argument marketing assumé, et c'est ce qui va créer la marque de fabrique de Mortal Kombat, c'est un peu la culture du grand n'importe quoi, en termes de design, en termes de personnages, en termes d'histoire, enfin voilà, les gens qui sont des fans de Mortal Kombat, dont je fais partie, hein, ça me fait beaucoup marrer, ce qui les fait marrer, c'est le côté série B du truc, complètement assumé, c'est-à-dire...
C'est nanar de ouf, hein.
C'est nanar de ouf, mais c'est assumé depuis le premier épisode jusqu'au bout, les mecs ont été... Vraiment, on fait n'importe quoi. Et donc, tu avais deux choses signatures qui étaient très importantes. Donc, tu avais le côté très violent. Tu avais les photosprites. Je maintiens ce terme, est assez gigantesque. Ça décrit très bien le truc.
Mais dis donc, Portal, c'est quoi les photosprites?
On a pris des photos d'acteurs qu'on a ensuite numérisées à l'intérieur de la borne d'arcade et qu'on a ensuite animées. Alors, ça veut dire que les mecs faisaient des séances photos où il fallait qu'ils donnent un coup de poing en 30 phases. Il fallait faire 30 photos. On sort un petit peu de la rotoscopie, mais on est en même temps... On est entre la motion capture et la rotoscopie, finalement. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une technique où on va aller photographier, filmer des gens en train de donner un coup de poing, un coup de pied, et on va aller coller tout ça dans le jeu. D'ailleurs, les ninjas...
C'est un peu de la stop motion, en fait.
C'est un peu du stop motion, mais avec des vrais gens. C'est exactement ça. D'ailleurs, technique qui sera réutilisée dans un autre jeu de combat, qui est Clay Fighter, qui utilisera du vrai stop motion avec des photographies de pâte à modeler.
C'est pour savoir. Cool.
C'est quand même pas inintéressant. Qui sera réutilisé plus tard chez Rareware pour Killer Instinct, qui utilisera en fait des images de synthèse qu'on a de nouveau numérisées pour les retransformer en sprite. C'est pour ça que je trouve que le terme photo sprite est plutôt pas mal. Voilà, donc on a en fait des maquettes qui ont été construites pour les décors, on a des acteurs qui ont été photographiés, et d'ailleurs si les ninjas c'est un jaune, un bleu, un vert, c'est pas pour rien, c'est qu'en fait eux ils ont été photographiés en gris et qu'ensuite il suffisait de changer la couleur derrière, quoi. Ça permettait de créer des personnages sans être obligé de refaire l'intégralité de la séance photo derrière, parce que ça devait coûter effroyablement cher et être relativement compliqué.
Et surtout ça doit prendre du temps.
Et ça devait prendre du temps. Il y a énormément de maquettes dans le premier Mortal Kombat.
Ça, je savais pas, c'est stylé.
La plupart des décors sont des maquettes. Et il faut savoir qu'il y a aussi des costumes qui ont malheureusement été perdus. Par exemple, Goro, qui est donc le personnage qui a les quatre bras et qui est très grand, c'était un mec dans un costume en latex.
Impressionnant.
Et qui était marionnetté, en fait. C'est-à-dire ses poings étaient guidés par quelqu'un derrière avec des grands bâtons. Je pense qu'il y a des photos de... On a heureusement... comment Ed Boon, qui est un des créateurs de la série, et
qui est toujours producteur, oui. Hein. Lui, il a bossé sur tous les Mortal Kombat, je crois.
C'est ça. Alors non, il y en a un sur lequel il n'était pas là, mais ça doit être le 4 ou le 5, je crois. Non, le 5 il y était, le 4 il y est pas. Bref. Donc Boon et Tobias, hein, c'est les deux gars qui sont à la direction du truc, qui assument le côté nanar et qui ont ressorti d'ailleurs il y a pas très longtemps des photos de tournage justement du premier Mortal Kombat où. Bon, c'est quand même assez génial, quoi. Il y a deux trois trucs où tu te dis bon, les gars ils se sont quand même un peu lâchés, voilà, c'est des trucs un peu rigolos. Mais voilà, typiquement le fameux dragon de Mortal Kombat, c'est une vraie statue qui existe, qui a été photographiée. Mais si,
c'est voilà, génial.
Mais bah moi je trouve qu'il y a un côté un petit peu expérimental aussi à tout ça, hein. C'est, on essaie de voir si ça colle, si ça marche.
Ah bah quand l'élu qui sauve le monde, c'est l'acteur qui pète plus haut que son cul aussi.
Oui, ça, après on pourrait en reparler aussi, mais voilà.
Ça me fait très marrer.
En termes de gameplay, Mortal Kombat part d'un principe assez différent, c'est que alors c'est pour ça que c'est un peu rebutant, surtout sur le premier en fait. Le deuxième est peut-être un petit peu moins dans les pas du premier. L'idée de Mortal Kombat, c'est qu'il faut que le jeu de baston se soit accessible à tout le monde. L'idée, c'est que les créateurs, donc côté Midway, Acclaim, tout ça, on se dit Street Fighter c'est vachement bien, mais c'est quand même pas très accessible, au sens où chaque personnage a une façon un peu différente d'être joué. Alors c'est ce qui fait l'intérêt du jeu, mais c'est ce qui fait aussi sa difficulté d'accès pour des gens qui n'ont pas l'habitude de ça.
Ouais, il faut. Et donc l'idée de Mortal... à chaque joueur, à
c'est
chaque
ça.
Personnage.
L'idée
je
de
sais,
Mortal
j'aime
Kombat...
beaucoup Fei Long et Ryu, mais c'est pas la même chose du tout.
C'est pas du tout le même genre de personnage, ça joue pas de la même manière, ça a pas le même poids. Donc l'idée du premier Mortal Kombat, c'est que finalement, chaque personnage va se jouer un petit peu de la même manière. C'est les mêmes coups de base, c'est la même logique, c'est les mêmes... Le poids, la vitesse des personnages ont tendance à être un peu identiques, même s'il y a des petites subtilités, hein, il y a quand même des petites stats qui sont ajustées. Sur la version arcade, je crois que sur la version console, c'est un peu moins vrai. Et ce qui va faire la différence, c'est surtout les coups spéciaux, la façon de les sortir.
Même la façon de sortir les coups spéciaux, c'est plus simple que Street Fighter. Hein,
c'est beaucoup plus simple, oui.
C'est un peu l'inverse de Smash, en fait. Dans Smash, tu as plein de morphologies différentes, mais tu peux toujours sortir les coups spéciaux de la même manière.
Oui, là, finalement, tu as la même morphologie pour tout le monde, c'est juste les coups spéciaux qui diffèrent, et la façon de les utiliser. C'est-à-dire que ce qui va faire la différence dans un Mortal Kombat, c'est pas forcément le fait de maîtriser les coups de base, puisque finalement, c'est les mêmes pour tous, entre guillemets, ils ont point haut, point bas, pied haut, pied bas, il y a une balayette, il y a un coup de pied rotatif, hein, c'est quand même... Il y a un uppercut, un peu connu, l'uppercut, parce que, voilà, c'est
oui, finalement, c'est assez iconique.
Ce qui fait vraiment s'envoler les personnages de manière absolument ridicule. Mais voilà, ce qui va faire la différence, c'est quand tu joues Liu Kang, bah, il faut maîtriser le coup de pied à distance, il faut maîtriser la boule de feu en haut ou en bas. Voilà, c'est ça qui va faire la différence, c'est ta maîtrise finalement de l'espace et des coups spéciaux pour maintenir ton adversaire à distance ou au contraire le faire venir te chercher. C'est ça qui va faire la différence. Maintenant, soyons clairs. Ça n'a pas la subtilité, la grâce et on va dire le côté très inventif de ce que fera un Street Fighter 2, c'est un peu plus limité de ce point de vue-là. Ce sera moins vrai à partir des suites où les différences entre les personnages, notamment en termes de poids, en termes de force, en termes de vitesse, vont commencer à changer un peu et on aura un gameplay qui va se diversifier un petit peu de ce point de vue-là. Voilà. Je sais pas si... Ah si, sur Mortal Kombat, il y a quand même un truc important, c'est la création de l'ESRB.
Oui, non, bah, en fait, c'est...
Enfin, ça va être un peu la conclusion.
C'est le côté sanglant, parce que justement, on parlait de ça. Mortal Kombat, c'est un... Enfin, Street Fighter 2, c'était un peu le jeu de baston de la Super Nintendo. Mortal Kombat, c'était plutôt celui de la Mega Drive. Ah, parce qu'il y avait un code sur Mega Drive pour retirer... Alors, les versions consoles n'ont pas de sang. À l'époque, il n'y avait pas de SRB quand le premier est sorti. Donc, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de PEGI. Peut-être qu'il y avait un truc au Japon.
Pas du non, tout, genre, il est vert.
Rien du tout.
Je crois que c'est même plus le séro japonais le plus vieux. Et du coup, sur Mega Drive, tu as un code pour remettre le sang. Donc finalement, les gens avaient plus envie de jouer sur Mega Drive que sur Super Nintendo à Mortal Kombat.
Alors, il y a un autre petit problème qui est rarement cité, même si c'est très probablement la raison. Oui, c'est ça, sur Super NES, c'était de la sueur. C'est-à-dire tout le sang était coloré en gris, c'était de la sueur. Donc c'était.
Il y avait ça que rose fuchsia.
Ouais, c'est un peu ça. Il y a un autre truc un peu qui est peut-être un peu moins connu, mais en fait la version Super Nintendo de Mortal Kombat est la version inférieure, il faut le savoir. Alors, il y a moins de fatalités, parce qu'en fait, y a, ça fait aussi partie des trucs qu'on n'a pas cités, mais la violence se poussait à l'extrême, le côté dire barbare, marketingement barbare, un peu débile. Et c'est ça qui est drôle dans Mortal Kombat, c'est les fatalités. C'est-à-dire que... Ce qui fait que les gens revenaient jouer, c'est pas tellement pour le jeu lui-même. Ce qui fait que les gens revenaient jouer, c'était de dire, bah, quand t'arrives à battre ton adversaire, tu peux l'humilier en plus, en l'achevant de manière spectaculaire.
Et d'ailleurs, il y avait, comme on avait dit, là, parfois les super moves n'étaient pas encore indiqués, donc les fatalités n'étaient pas indiquées
non,
sur la bande d'arcade.
Fallait les découvrir.
Et il y avait, apparemment, il y avait même des mecs qui, au moment de faire la fatalité, cachaient leurs mains avec un drap ou un t-shirt pour que tu ne vois pas la commande qu'ils font.
Oui, bah oui, c'est
parce que savoir caser sa facilité, c'est être un peu le roi de l'arcade, tu vois.
C'est ça, c'est-à-dire que toi, t'étais capable de jouer machin. Quand t'arrivais à battre quelqu'un, peut-être que t'y arrivais pas à tous les coups, mais quand tu le battais, tu pouvais l'humilier en plus, tu vois. T'avais ce côté. Là, t'as vraiment ce côté très, très arcade, très versus fighting, quoi. C'est vraiment, t'es là pour aller humilier le mec en face, t'es là pour aller te battre, t'es là pour la bagarre, quoi.
Sachant qu'en
je
plus,
suis là
dans les...
pour casser des culs et mâcher c'est... des gommes, et je suis à court de gommes.
C'est exactement ça, belle référence.
Exactement ça. Et sachant qu'en plus, dans l'épisode d'après, en plus des fatalities, tu vas avoir des trucs genre les babyliti, les friendships.
Les friendships, enfin, t'as tout vont, un tas de manières d'achever ton adversaire.
C'est ça.
Et ils vont en jouer, même encore aujourd'hui, hein, ça fait partie un peu du folklore du truc. Donc c'est les premiers à avoir fait ça. Mais voilà. Et du coup, la version Super Nintendo contient des fatalités qui sont largement édulcorées. C'est-à-dire typiquement Kano dans la version arcade, en fait, il plonge sa main dans le torse de l'adversaire, il arrache son cœur et tu as son cœur battant dans sa main qu'il brandit en hauteur. Dans la version Super Nintendo, voilà, c'est un peu ça. Dans la version Super Nintendo, il lui vole son portefeuille.
Oh la violence.
Bon, voilà. T'en as quelques-unes qui sont restées quand même de fatalité un peu. C'est ça. T'as quelques fatalités un peu gore qui sont restées, mais il y en a qui sont. C'est quand même très très soft, alors que la version Mega Drive, même sans le code pour le sang, garde les fatalités de la version arcade.
Mais juste une chose, le code c'était avec une Game Genie ou c'était...
C'était
à même le jeu, d'accord.
Bon, en plus, il y a un cap dedans.
Oui. Ah non, mais c'était les mecs rigolaient zéro, quoi. C'était vraiment. Et visiblement, côté Acclaim, on a fait fuiter exprès le code très 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 vite, justement pour profiter du truc. Enfin, c'est évident que. Il y a un argument marketing. Mais deuxième truc sur la version Super Nintendo, c'est qu'elle a un gros problème de latence entre les commandes et ce qui se passe à l'écran.
Oh non, alors quel enfer.
Oh.
Oui, donc si vous avez joué à la version Super NES, en fait, vous avez une version qui est moins accurate que la version arcade. La version arcade répond vraiment très bien. Les personnages répondent bien, répondent vite. La version Super NES, il y a un petit temps entre le moment où on appuie sur le bouton et le moment où l'animation se déclenche. Ce qui n'est pas sur la version Mega Drive, puisque la version Mega Drive a des sprites qui sont plus hachés. Non, alors au contraire, c'est pas l'absence de blast processing. Hein, c'est juste la version Mega Drive avait moins de place sur la cartouche, donc les sprites sont enfin les animations sont plus hachées, mais du coup la version réagit un peu plus vite. C'est quand même.
Comme quoi.
Ouais, voilà, des fois avoir une version un peu moins belle, bah en fait ça pouvait signifier être un petit peu mieux. Mais donc cette version Super NES, elle a été un peu, voilà, elle a été un peu finie à la serpe. Et c'est ce qui fait, alors tout le monde dit que c'est le sang qui fait que c'est la version Mega Drive qui s'est le plus vendue. Moi, je pense que les gens voyaient bien qu'effectivement cette version était pas fofolle. Et ça a peut-être dû jouer.
Oui, je suis désolé, une latence, ça te tue tout. C'est même d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens demandent un rollback sur Super Smash Bros. Ultimate.
Ouais, parce qu'effectivement, c'est très gênant. Voilà.
Et du coup, pour le SRB, parce que c'était comme ça, sur ça qu'on était parti à la base.
C'est sur ça qu'on est parti à la base. Donc, en 93 ou 94, je crois, le Sénat américain audite un certain nombre de gros éditeurs et constructeurs de jeux, notamment Nintendo, notamment Sega. Il y a deux jeux qui se font particulièrement épingler par les sénateurs américains. Le premier, c'est Night Trap de Sega, qui était sorti sur Sega CD, dans lequel il a été dit dans le Sénat américain qu'il y avait une scène de viol qui était filmée, ce qui est complètement faux. Et le deuxième, c'était Mortal Kombat. Alors il y a Doom aussi, je crois, qui est apparu un moment dans le truc, mais c'est de manière beaucoup plus discrète, je sais pas comment dire, mais enfin c'est beaucoup moins visible que les deux autres. Et
Doom,
en gros...
discret, incroyable.
Non mais oui.
Je connais pas le Metal Gear Doom.
Metal Gear Doom, ouais. Et en fait, en gros, les sénateurs américains ont posé un ultimatum à l'industrie du jeu vidéo. On leur dit, voilà, soit vous vous régulez, soit c'est nous qui vous régulons. D'où la création...
Pas plus mal.
C'est peut-être pas plus mal, d'où la création de l'ESRB, donc c'est le Entertainment Software Rating Board, qui en fait est une association de droit américain. Oui, Night Trap qui ne sortira jamais sur une console Nintendo, nous l'avait promis à l'époque, il est sorti sur Switch.
Tout
est sorti sur Switch. Donc l'ESRB, l'Entertainment Software Rating Board, qui est donc en fait une association de droit américain auquel tous les éditeurs et constructeurs sont priés d'adhérer. Donc c'est vraiment une adhésion, on paye annuellement, ils payent, je sais plus, 1000, 2000, 3000 dollars, je sais plus combien ça coûte, mais c'est pas si cher que ça. Et en fait, cet organisme va décider si le jeu est 3+, 5... alors pas 3+, aux États-Unis c'est pas la même,
c'est Everyone...
E0, Everyone à partir de 0, Everyone c'est à partir de 3 ans, tu as Teen Plus et Mature, je crois, qui est là, et peut-être. Adult Only aussi.
Et Granny.
Tu as Teen, tu as MILF, voilà, bref, on va pas faire ça... Voilà, donc c'est le SRB qui a décidé de la notation des jeux et qui, comme pour les films en fait, hein, tu as exactement le même système pour les films à Hollywood, les sénateurs américains sont vraiment inspirés de ça, où un film qui sort en salle, il est pareil, on a la même chose en France, hein, je rappelle, interdit au moins de 12 ans, interdit au moins de 16 ans, et ainsi de suite. Voilà, on a la même chose pour la télé, enfin bref.
En France, on a le Peggy, hein, pour le coup.
On a le Peggy, ouais, qui est le successeur de l'ALSPA, si je ne dis pas de bêtises.
Je crois que c'est ça. Et fun fact, pendant un temps, le Royaume-Uni avait son propre système de rating. Et puis ils sont passés au pays un peu comme tout le monde, parce que pourquoi se faire chier ?
C'est ça. Le Japon a le sien qui s'appelle le Cero. L'Australie a le sien qui s'appelle je sais plus comment. Mais bref, tout
ça
monde
s'appelle y a rien qui sort.
Peut-être. Mais voilà, donc tout en fait, toutes les grandes zones ont fini par l'avoir. Mais c'est vrai que Mortal Kombat n'a pas créé le SRB. Mais disons qu'il a très fortement contribué à sa création. Ce qui a permis d'ailleurs, à partir de Mortal Kombat 2, maintenant que le SRB était en place, finalement, il n'y avait plus de raison de se... Enfin, que ce soit côté constructeur éditeur, c'est-à-dire Nintendo, que ce soit côté Acclaim, que ce soit côté développeur, il n'y avait plus de raison de se retenir sur les questions de gore, de sang, de sexe, de gros mots, de... Il y avait un système de rating. Donc finalement, Mortal Kombat 2 sort, il est rated M, donc jeu mature, pas pour les enfants, problème réglé, les constructeurs peuvent vendre ce qu'ils veulent aux enfants, de toute façon il y a un rating, donc on peut plus rien leur reprocher.
C'est pas ça. Complètement, parce qu'il y en a certains où c'est quand même allé tellement loin que le gouvernement est revenu sur les décisions.
Oui,
il y a eu GTA, GTA San Andreas,
oui.
Et Hot Coffee.
Il y avait aussi Manhunter, je crois.
Non, Manhunter a fini par sortir, mais de manière plus confidentielle. En fait, le problème, c'est...
Mais ça a quand même eu tout un débâcle, etc.
Non, mais à chaque fois, t'as du débat. Y a toujours du débat là-dessus. Est-ce que les jeux sont trop violents, est-ce que machin... T'as toujours, toujours, toujours du débat.
Je crois qu'un jeu Punisher aussi a été ban, mais je suis pas sûr.
Oui, il y a un jeu Punisher. Alors, pas été ban, il a été un peu édulcoré. Mais en fait, techniquement, le rating system fonctionne. C'est les éditeurs qui n'ont pas les couilles quand il y a un gros backlash, qui se disent, bon, très bien, on va changer de braquet, on va réduire un peu le truc, on va tone down, mais techniquement, ils sont absolument pas obligés de le faire.
En sachant que ça n'a jamais empêché Nintendo de réduire les références religieuses, enfin, les références chrétiennes, dans ces jeux, dans les jeux qui sortaient en Occident.
Tout à fait. Et je rappelle, le Mature, qui est donc l'équivalent du 18+, en Europe...
Ah, je croyais que tu parlais du personnage de King of Fighters.
Non, non. Non, non. Le rating mature, qui correspond donc normalement en Europe au rating 18+, alors c'est pas toujours le cas, hein. Il y a des jeux qui se retrouvent 16+, alors qu'ils sont M aux États-Unis, enfin c'est un peu le...
Oui, c'est un peu quelques différences de mentalité. Voilà. Je crois d'ailleurs que le mature s'applique à 17 ans et plus.
Oui, c'est ça, parce qu'il y a un adults only, et ça va vous faire marrer, mais le adults only ne concerne que les contenus sexuels, parce qu'évidemment on est aux États-Unis. Donc, Mortal Kombat 11, dans lequel il y a quand même des mecs qui se font découper en deux, il y a des yeux qui volent, il y a des bras qui volent.
Pour le coup, on parlait de la violence de Mortal Kombat à l'époque, c'est rien par rapport au Mortal Kombat actuel. Hein.
Ah oui.
Ah non,
mais... je trouve ça chaud, moi.
Je me souviens d'avoir vu une fatalité, c'était le crâne qui partait vers l'arrière, mais pas le reste de la mâchoire, et ensuite le gars qui faisait la fatalité qui mettait son gros mégot sur la langue.
Bah
dégueulasse.
Oui. Mais encore une fois, c'est le côté parfaitement outrancier de Mortal Kombat. C'est, ah oui, on peut toujours aller plus loin.
C'est globalement ce qu'ils se sont dit avec le 11, ouais.
Et
c'était
ensuite,
déjà le cas avec le 10 aussi.
On défonce je ne sais combien de crânes à la minute. Hein.
Non mais, forcément, mais c'est des hectolitres de sang à la minute. Mais encore une fois, t'as ce côté outrancier, volontairement, totalement débile de Mortal Kombat, qui a été finalement parfaitement compris par le film, le tout premier, qui était vraiment un truc parfaitement débile, mais tout à fait enjaillable, parce que ben, c'était le grand n'importe quoi, et qui n'a pas été compris par la suite. C'est pas si facile que ça, figurez-vous, de faire un nanar sans trop se prendre au sérieux, en se prenant suffisamment au sérieux, mais sans trop se prendre au sérieux. C'est un art, et là-dessus, Mortal Kombat reste quand même quelque chose d'un peu exceptionnel. C'est pas tous les jours qu'on a ce genre de d'ovnis un peu qui peuvent se permettre tout et n'importe quoi et que ça marche, quoi.
C'est l'art de faire les choses sérieusement, mais de ne pas se prendre au sérieux.
Exactement.
Mais je pense que Mortal Kombat, enfin, si une nouvelle série grand public de jeux de combat sortait avec ce niveau de violence, il se ferait défoncer. Mortal Kombat peut, parce que c'est Mortal Kombat.
Je pense qu'il y a un peu de ça, ouais. C'est tristement d'ailleurs, parce que finalement, dans les enfants de Mortal Kombat, il y en a quelques-uns. Je pense que Killer Instinct fait partie vraiment d'une filiation quasi directe.
C'est vraiment le premier qui me viendrait en tête.
Ouais, t'en as d'autres.
Il y a eu pas mal de clones.
T'as une justice aussi. Alors lui, c'est carrément l'autre jeu de NeverEnd Studio, le studio actuel de Mortal Kombat. Mais c'est plus récent.
C'est plus récent. Mais je pense à Killer Instinct, mais il y en a d'autres. Il y a un jeu sur Jaguar aussi qui était un peu...
Bah, tu parlais de Clay Fighter.
Clay Fighter,
c'est voilà. Une forme d'héritier, mais plus sur la partie visuelle que sur la partie violence.
Tout à fait.
Mais on rappelle que la plupart des choses dont on parle aujourd'hui, dont Night Trap, a été procédé par le joueur du grenier.
Oui, voilà. Effectivement, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller regarder ça. Mais Night Trap, c'est très rigolo, parce que quand il est ressorti là sur Switch, je crois qu'il est 12+, un truc comme ça, ou 16+, enfin tu vois... On a vraiment fait une montagne pour pas grand chose. Et effectivement, je pense que les Mortal Kombat, ils y tiennent aussi à leur rating M. Je pense que ça fait aussi partie un petit peu de la culture derrière de on a envie d'avoir un rating M, on a surtout pas envie d'être 16+. Ce serait un peu une espèce de déchéance. C'est ce qui fait d'ailleurs que les tentatives de films, de séries et autres. Alors, encore une fois, le premier film, moi j'ai une certaine. Pas nostalgie, mais une certaine.
Affection.
Affection, oui, pour ce film, parce que. C'est totalement débile, mais le fait est, il sort PG-13, donc interdit aux moins de 12 ans, ce qui leur a permis quand même de faire 2-3 bricoles un peu rigolotes pendant le film. Le suivant sort interdit, enfin PG, donc en gros l'équivalent d'un interdit aux moins de 10 ans, ça perd l'intégralité de sa saveur, parce que bah, tu peux pas faire un film Mortal Kombat si t'es pas interdit aux moins de 16 ans, je veux dire, ça n'a aucun intérêt.
Ben non.
C'est vraiment l'ADN de la série, d'être... mais encore une fois, ce côté... outrancier, il n'y a pas d'autre mot, quoi. C'est vraiment gore pour gore, sans aucun sens, totalement débile, totalement décérébré, mais c'est ça qu'on aime.
Bah,
on rappelle qu'il y a des cyborgs à un moment donné.
Oui, normal. Des cyborgs.
Tu sais, les jeux de combat, même Street Fighter, c'est des melting pot de tout et n'importe quoi. Hein, façon, attention.
Bah, c'est comme des comics, en fait. Voilà.
C'est ça. On a une partie de la culture du comics qui revient là-dedans. Hein.
Et, de toute façon, c'est même, même maintenant, c'est la culture jeu de combat globale. C'est que ce qui va faire que tes gens vont avoir envie de jouer, c'est que les personnages sont cool. Ils vont envie de jouer des personnages avec lesquels ils aiment jouer, qui font des trucs sympas, ils font des combos chambés, ils ont des supers qui pètent l'écran. Donc,
voilà.
Sur Mortal Kombat Street Fighter, faut des bons persos. Hein.
Voilà, faut des persos iconiques qui pètent des culs. comme Phoenix Wright dans Ace Attorney.
Voilà, ça y est, il peut pas s'en empêcher. Hein.
Ah, Phoenix Wright qui est aussi un personnage de jeu de baston.
Oui.
C'est dans important. Marvel vs Capcom 3.
Oui, c'est important. Bref.
Très bonne transition d'ailleurs pour parler du reste.
Alors.
On va finir, je pense.
On va finir, je pense, là-dessus. Je sais pas si ça vous tente, mais je ferais bien une suite à cet épisode pour justement parler de ses enfants un petit peu plus. Notamment Virtua Fighter, je pense qu'il y aura des choses à faire. Côté Tekken, en fait, il y aura des choses à faire.
Globalement, on s'arrête en 94, hein, à peu près, hein, sur les jeux dont on parle, parce que 94, c'est la sortie de Virtua Fighter, qui est le premier jeu de baston en 3D, qui va est vraiment impressionnant pour l'époque. Pour regarder maintenant, vous allez rigoler, hein. Mais vraiment, à l'époque, ça a marqué les gens. D'ailleurs, une des raisons pour lesquelles Tekken existe, c'est parce que Virtua Fighter existe. Namco voulait faire son Virtua Fighter, sans pouvoir parler plus tard.
La Virtua Fighter, c'est 32X, c'est ça ?
Je ne sais plus.
Sega.
C'est Sega, c'est Sega. Voilà. Jeu d'arcade Sega.
La 3D de la Mega Drive 32X, elle est jamais ouf, très honnêtement. Elle a son côté, mais elle n'a jamais été où.
C'est surtout un jeu d'arcade Virtua Fighter, et c'est surtout pour ça qu'on s'arrête à ce moment-là. Et puis c'est aussi le moment où, côté Capcom, côté SNK, et même d'autres développeurs, ça va expérimenter à fond avec le genre. On va avoir des trucs un peu fous, genre les versus Capcom, les Darksalkers, qui vont aussi pas mal complexifier le genre qui était déjà pas forcément facile à la base.
Les Mega Man Power Battle.
Oui, en plus toutes les
totalement le gameplay de Mega Man, mais qui sont très bien.
Super Smash Bros aussi.
Ça va sortir
basé sur Kirby.
Rival School. On nous souffle dans le.
Rival School, c'est vachement bien.
Soul Calibur aussi. Enfin,
Soul Blade, Soul Calibur, Soul Edge.
Guilty Gear.
Oh, Guilty Gear.
Bref.
Plein de jeux dont on pourrait parler, mais une prochaine fois.
C'est ça. On va refermer là.
Un dernier que j'aimerais mentionner quand même, c'est Evil Zone, qui est en 3D et qui avait l'air bien sympa, mais que malheureusement. Mais il coûte un peu cher et du coup j'ai toujours pas pu le tester par moi-même.
On nous souffle aussi dans le chat, Soul Blade, on l'a dit, Toshinden.
Oui, c'est
ouais, Toshinden.
Tobal, Bushido Blade, donc effectivement la bagarre, mais sous plein de formes différentes. Alors avec la bagarre 3D, il y a quand même eu des choses intéressantes.
Ah sur PlayStation, il fallait son jeu de bagarre 3D, hein. Même Square Enix en a fait.
Ouais. Oh putain, on en parlera. C'est vrai, Tobal.
Il n'y a pas que Tobal, je pensais à un autre avec un nom allemand. Hein.
Einander.
Celui avec Claude et Sephiroth ou Stotifa en personnage.
Oh putain, celui-là aussi. Oh mon dieu, quel enfer. Bref, faut qu'on s'arrête là.
On pourrait y passer des heures.
On pourrait y passer des heures.
Un tout petit dernier que j'aimerais mentionner.
On ne peut pas y arriver.
Faites le taire.
Si vous connaissez Reptile Team, qui a récemment sorti Bomb Rush Cyberpunk, ils avaient sorti avant un autre jeu qui s'appelait... J'ai oublié le nom. Rocket League, pas Rocket League, quelque chose, Blaze.
Rocket League Adventure Fighting 2, Turbo Edition.
Non, bref.
The New Challenger.
C'est quelque chose League Blaze, où en fait, au lieu de combattre l'adversaire, il faut utiliser une balle et lui envoyer dans la gueule. Ça a l'air très bien joué.
Lethal League.
Ça
a l'air d'être ça. C'est très très bien.
C'est ça, c'est très très bien, et qui en plus a une excellente musique par Naganema qui s'appelle... Oh, et puis merde, j'ai oublié le nom, allez, on s'arrête ici.
Voilà, on va s'arrêter là. Quand ça commence à partir en couille dans le chat, on nous dit Star Wars Master of Terracassie,
on pourrait y passer des heures. Hein.
Je pense qu'on fera une suite, ce sujet me fait beaucoup marrer, effectivement, il y a plein de séries à explorer encore, il y a plein de parentés rigolotes à explorer. Quand on commence à remonter un peu le fil, on voit ces similitudes, ou au contraire ces différences, je trouve ça super intéressant.
Il y a un système aussi dont on a parlé, par exemple, dans le premier Guilty Gear, il y avait une manière de... On pouvait envoyer un compliment à son adversaire ou au contraire lui envoyer une insulte et ça pouvait en plus lui faire mal. C'est un peu comme les taunts de Smash.
Emotional damage.
Oui, voilà.
Ouais, il y a plein de choses dont on peut parler.
Il y aurait plein de choses. Bref, on vous fait des gros bisous. On vous retrouve dans 2 semaines. Vendredi, c'est Castlevania Legacy of Darkness parce qu'on va tester les Konami Code. Il n'y a pas de raison.
Ah oui.
Ça va être bon. Moi, j'y ai joué, je trouve pas ça si horrible que ça. Mercredi et vendredi prochain, ce sera une semaine Jean Fulgence, puisque c'est lui qui prend tout. Dimanche, je vais chez lui, j'en ai rien à foutre. je suis un gros forceur.
Et tu lui passeras le bonjour de ma part.
Et je lui ferai un gros bisou.
Pense à sortir le podcast avant pour qu'il soit au courant.
C'est vrai, mais tu crois qu'il écoute le podcast, t'es un ouf, toi. Je crois que t'as pas... Il l'écoute avec 3 semaines de retard, donc... Bref. En tout cas, en attendant, on vous fait de très très gros bisous. On vous souhaite une très bonne semaine. Bisous tout le monde.
Bisous, bisous.
Bisous.
À donc, Ken.
Salut, Ken.